ça. Les paramours de la vie, ça. Ils ont le pouvoir des mots. Ils ont le pouvoir des mots. Voilà, c'est finito.
La main qui fait chanter la plume, la main qui creuse le sillon, la main qui arme le béton. La main qui nivelle l'air, la main qui referme la plaie, la main qui tisse le coutil. La main qui fait rougir l'outil. La main qui fauche les blés durs, la main qui cueille les fruits mûrs, la main qui coule le ciment, la main qui taille le sarment. La main qui tend, la main qui trace, la main qui coud, la main qui brasse, la main qui règle le compas, la main qui tient la bête au pas. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. La main qui resserre les taux, la main qui brase les métaux, la main qui fend, la main qui broie, la main qui cloue, la main qui bat. La main qui concasse le grès, la main qui fixe les agrès, la main qui perfore l'acier. La main qui course le clavier. La main qui frappe au cœur des arbres, la main qui façonne le marbre, la main qui plie, la main qui peine, la main qui travaille à la chaîne. La main qui creuse dans la mine, la main qui se blesse en machine, la main qui souffre et qui se tord, la main qui tremble sous l'effort. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. Mais je crie à qui veut l'entendre, ma confiance en l'avenir, les mains sont faites pour s'attendre, les mains sont faites pour s'unir.
Bonjour aux auditeurs de, et aux auditrices de Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, pour cette nouvelle émission de « Et pourtant, elle existe, cette littérature », émission réalisée par le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, qui publie, je rappelle notamment, « Fragments », revue de littérature prolétarienne, et qui a mis en place un travail d'édition, avec la publication de deux livres, hein, le livre de François Lebert, Ligne de front, et plus récemment, au mois d'octobre 2023, le livre de Michel Ragon, Nous sommes 17 sous une lune très petite. Donc, aujourd'hui, pour cette émission, nous sommes quatre dans le studio. Nous avons à la technique Frédéric, du groupe La Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Et autour de la table, nous avons Michel, du CLOPS, hein, Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, moi-même Raphaël, et au sommaire de ce jeudi 18 janvier 2024, nous avons un thème central avec un invité, Nejib Sidi Moussa, qui vient de publier Le Remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue aux éditions de l'Échappée. Ensuite, Michel nous parlera du livre de Michel Ragon, Les ateliers de Soulages. Enfin, nous présenterons, selon le temps qui nous sera imparti, le livre de Vincent DiMartino, Le couloir de l'horloge, paru en 2011 aux éditions Le Temps des Cerises. Et enfin, nous terminerons par quelques informations d'actualité, à la fois l'actualité éditoriale dont je viens de parler, nous sommes 17 sous une lune très petite, le colloque que nous organisons en juin 2024 autour du centenaire de la naissance de Michel Ragon, et enfin le sommaire de la 8e livraison de Fragments qui est sous presse actuellement et qui devrait être disponible à partir de la dernière semaine de janvier 2024. Alors, retour aux sources, nous allons commencer avec l'entretien avec Nejib. Donc, Nejib, avant d'échanger à propos de ton livre, Le Remplaçant, journal d'un prof précaire, j'insiste, de banlieue, peux-tu te présenter aux auditeurs de Radio Libertaire, même si certains te connaissent déjà par certains de tes écrits? J'entends par là tes origines, le parcours, l'enfance.
Oui, alors, origine, parcours, enfance... Je pense que certains auditeurs de Radio Libertaire me connaissent au moins depuis 2017, depuis mon premier livre La Fabrique du Musulman. Il y en a eu d'autres depuis, et j'ai eu l'occasion de présenter mes dernières publications. Je suis né en 1982 à Valenciennes, dans le Nord, dans une famille ouvrière et qui avait aussi la particularité d'être originaire d'Algérie. Et dont les anciens, en fait, s'étaient battus pour l'indépendance, mais du côté de Messali Hadj, ce qui veut dire qu'ils étaient un peu pris en étau, finalement, entre le colonialisme et ce qui allait devenir le parti unique après l'indépendance. Donc, ils ne sont pas partis par choix, mais par nécessité pour sauver leur peau. Et voilà, j'ai grandi dans ce milieu... Jusqu'à mon arrivée à Paris pour poursuivre mes études en 2001. Donc il y a aussi un autre tournant de l'histoire. Hein. Je suis arrivé quasiment au moment des attentats du 11 septembre. Et voilà.
Je reviens oui. sur en fait un exil familial qui est d'origine politique en fait.
Oui.
Et est-ce qu'il y avait comme moi il se trouve que j'ai travaillé au début des années 70. Au milieu de gens qui étaient encore dans ce qu'on appelait le bidonville de Nanterre. Et il y avait un certain nombre de gens qui étaient aussi des réfugiés et qui avaient à craindre des représailles, y compris sur le territoire français. Est-ce qu'il y avait ce genre de possibilités par rapport aux divergences au sein du mouvement de libération nationale ou pas du tout?
Alors, il n'y avait pas la crainte d'atteinte physique. Néanmoins, pour ceux qui, notamment dans ma famille, avaient essayé de... maintenir, allumer la flamme, en fait, déjà maintenir une espèce de mémoire militante et aussi combattre pour la démocratie en Algérie. Voilà. Certains se reconnaissaient là-dedans, dans l'héritage messaliste, mais aussi démocratique, avec un vernis nationaliste quand même assez important hein, et assez conservateur à bien des égards. C'était plutôt ces gens-là qui pouvaient craindre par moment d'avoir des problèmes avec les autorités ou avec certains de leurs représentants ou leurs relais en France, dans l'immigration, mais éventuellement quand ils retournaient là-bas. En revanche, du point de vue, encore une fois, ils se sentaient pas en danger ni menacés, mais il y avait un sentiment peut-être un peu d'inquiétude ou de vigilance, je dirais. De vigilance ou parfois de méfiance également, ça existait. Et de stigmatisation également, hein, de la part... d'autres segments de l'immigration, de la diaspora, ou alors parfois ça pouvait arriver, pas tout le temps, c'est pas systématique, mais parfois des petits problèmes avec les autorités, au consulat, ce genre de choses.
C'est aussi un paradoxe, parce que le MNA avait aussi été un mouvement précurseur, en fait,
oui.
de presque 20 ans ou 30 ans avant.
Le courant messaliste, effectivement, c'est un des courants ou le courant historique du nationalisme révolutionnaire en Algérie, qui, je vais pas refaire l'histoire ici, je pourrais la faire, mais qui est né au contact du mouvement ouvrier dans l'immigration en France, qui n'a pas forcément pris les meilleurs traits, disons les choses. Néanmoins, il y a quand même de bonnes traditions, je dirais, qui ont été empruntées. Et à partir du moment où on bascule avec le 1er novembre 54 dans la phase violente de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, bien il y a des dissensions qui existaient déjà, qui vont se creuser, qui vont s'affirmer. Alors d'abord, ce sont des bastonnades. Ensuite, c'est aussi des guerres de tract. Et puis ensuite, on passe aux armes et aux massacres. Et il se trouve que ma famille a vécu ça, a traversé ça, mais comme des milliers d'autres de personnes en Algérie ou en France. Et précisément, moi, quand je suis arrivé à Paris pour poursuivre mes études, alors que ça faisait pas partie, j'ai pas de plan de carrière, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Mais j'ai décidé en me posant des questions, surtout quand mon grand-père est tombé malade puis est décédé, de consacrer les meilleures années de ma jeunesse et donc ma thèse en fait, à l'étude du mouvement messaliste. C'était pas du tout un éloge, c'était pas du tout une manière de réhabiliter, mais au contraire, je l'ai questionné de façon critique et objective, je le pense, et c'est ce que mes lecteurs également m'ont confirmé. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est un fil conducteur assez important. Ça le reste jusqu'à aujourd'hui, cet héritage-là, sans pour autant m'y enfermer précisément.
Donc cet héritage et en même temps un présent en tant qu'enfant dans un bassin ouvrier.
Oui, oui.
C'est dans Valenciennois.
Exactement. Hein, si je me trompe. Exactement.
Et trouver le chemin des études malgré tout, parce que je rappelle que. Le pourcentage de gens qui viennent de milieu ouvrier dans les années 70, c'était 7% qui allaient en faculté. Bon, pour ta génération, c'est un peu plus. Mais je veux dire, là aussi, il y a un parcours pas évident. Ça.
Oui, oui, oui. Moi, c'est vrai que je suis le premier de ma famille à être allé aussi loin dans les études. Alors, on parlera du résultat, de ce que ça donne. Parce que précisément, on peut avoir un parcours... universitaire sans que ça change fondamentalement grand chose à sa vie. Ça change des choses, mais je veux dire, ça veut pas dire qu'on est installé de ce point de vue-là. C'est pas une notabilisation ni un embourgeoisement de ma part. Il se trouve que j'ai quitté la condition ouvrière d'une certaine façon, mais pas la précarité qui m'a collé à la peau. Néanmoins, oui, ça c'est l'autre aspect. C'est vrai que quand tu poses la question sur les origines, moi souvent. Quand on pose la question, ça me fait sourire ou ça me fait tiquer, mais comme on est dans un cadre amical et fraternel, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'on, quand on parle de l'origine aujourd'hui, on parle peu de l'origine sociale, précisément. C'est quoi ton origine? C'est quoi tes origines? Moi, j'ai tendance à dire, je suis ouvrier, je suis d'origine ouvrière. Et ça a tendance à déconcerter, en fait, la personne qui pose la question, qui n'y pense pas forcément un mal, mais... Mon origine, c'est aussi ça, en fait. Et ça, je l'ai vraiment ressenti, moi, en étant dans le Nord, parce que mes petits camarades, mes copains, mes copines, on venait du même terroir. Peu importe les origines nationales qu'on avait, on venait du même terroir. Voilà, presque. Ouais. Mais nos papas travaillaient à l'usine, nos mamans souvent s'occupaient de nous. Et encore une fois, peu importe l'origine nationale, les mamans étaient à la maison, les papas allaient à l'usine, ils jouaient au tiercé, ils roulaient avec des voitures d'occasion, certains buvaient, d'autres pas, ça dépendait là aussi des traditions et des pratiques. Mais j'ai davantage senti que j'étais d'extraction prolétarienne en arrivant à Paris, en faisant mes études, et on m'a fait comprendre, encore une fois, par les regards, par les mots, quand je devinais que j'avais pas les bons goûts, les bonnes références, que j'étais pas de ce monde-là, en fait. Et aussi bien à l'université que dans certains cercles militants, je le précise.
Oui, non mais ça... Moi, ça ne me surprend pas, tes réflexions, parce que je pense qu'effectivement, il y a parfois un entre-soi, y compris dans les milieux révolutionnaires ou dits révolutionnaires, qui ont du mal un peu à extrapoler. Là, tu fais donc des longues études, tu as un bac plus 8, et tu arrives dans ce métier d'enseignant. Tu dis, tu écris, c'est par accident que je suis arrivé dans le métier, donc pas de vocation, pas de révélation, mais un accident.
Alors, là aussi, c'est toujours compliqué de parler de la vocation, parce que... D'un côté, j'ai toujours travaillé avec des jeunes sur mon temps en dehors de ma formation, je dirais ça. dans le sens où j'étais animateur en centre de loisirs, en colonie de vacances, dès mes 17-18 ans. J'ai été pion en collège, surveillant, pour financer mes études quand j'étais ici, à Paris. Et il se trouve que, effectivement, j'ai découvert le métier d'enseignant, l'activité d'enseignant, pendant ma thèse. C'est-à-dire qu'au moment où je me consacrais à ma recherche, où chaque jour c'était salle d'archives, c'était la BNF, des grands moments, un grand moment de stimulation en fait, parce que pour la première fois de ma vie, je suis payé, pas beaucoup, mais je suis payé pour faire une thèse, une recherche, pour lire, me cultiver, me former, me faire mal au cerveau. Et donc, je découvre à cette occasion, j'ai l'opportunité de donner des cours pour la première fois. Et c'est une révélation, là, pour le coup. Parce que c'est l'échange, c'est le dialogue. J'apprends des choses quand je prépare mes cours et j'échange avec mes étudiants. Et là, ça révèle quelque chose chez moi. C'est que j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de l'exercer. Donc, j'ai quelques expériences, mais précaires, d'enseignement à l'université. J'arrive au bout de ma thèse, j'essaie de m'accrocher, et puis ça marche pas. Et finalement, en fait, la question, c'est, enfin, ta question. Alors, on voit au fait que j'arrive par accident à devenir enseignant dans le secondaire. C'est-à-dire que c'était pas ma vocation. C'était pas, encore une fois, mon plan de carrière, même si j'en ai jamais vraiment eu. Et je deviens, par nécessité, parce que ça marche pas à l'université, parce que même ailleurs, je trouve pas de boulot, et que j'aime bien, en fait, d'avoir ce contact et cet échange, et j'aime bien transmettre, je deviens prof dans le secondaire après le confinement, parce que j'ai rien d'autre.
Oui. Mais tu dis c'est par accident, mais en même temps, tu exprimes à un moment dans ton livre, tu dis, je suis convaincu que mon rôle dans cette société consistera à produire des connaissances et à les transmettre. Ça veut dire quand même une certaine, je dirais pas, quand même une tendance assez forte à aller vers l'autre pour la transmission, ce qui rejoint quand même une fonction pédagogique. Donc oui. Là, tu as cette thèse, effectivement, qui potentiellement fait de toi un maître de conférence possible, immédiatement, pratiquement. Oui. Puisque tes thèses, c'est dans les domaines sciences politiques, sociologie, histoire.
Oui.
Donc tu as un chemin qui est balisé d'un point de vue cursus universitaire, et pourtant...
Oui, et pourtant ça ne marche pas. Mais ça marche pas pourquoi ? Parce que je l'explique un peu dans le livre, parce que c'est faut objectiver les choses, faut donner les éléments. Ça marche pas parce que le nombre de postes ouverts au concours a chuté, a été divisé par deux en à peu près 10 ans. C'est-à-dire au moment où moi je m'insère dans ce parcours-là, je commence ma thèse en 2007, je la soutiens en 2013. Donc le nombre de chances de devenir maître de conférence, enseignant chercheur, est divisé par deux. Donc déjà ça devient plus compliqué. Ensuite l'autre chose qui est compliquée, c'est que j'ai travaillé sur l'Algérie, la France coloniale, sur un mouvement qui est peu connu ou alors qui a une réputation sulfureuse dans certains milieux. Pour être honnête, ça n'intéresse pas grand monde chez les recruteurs. C'est pas que ça n'intéresse pas grand monde chez le public cultivé, chez les lecteurs ou qui sais-je encore. Non. C'est que dans la caste bureaucratique qui recrute ou qui se coopte, en réalité, c'est comme ça que ça marche, ça n'intéresse pas, ça leur parle pas. C'est pas le genre de sujet qui les intéresse. Bon, donc on va pas créer un poste là-dessus, ou on va pas recruter quelqu'un sur ces questions-là. Et puis la troisième chose, je le dis aussi très tranquillement, c'est également des engagements, c'est des prises de position ces dernières années. Donc voilà, je soutiens en 2013... Il y a un contexte qui change en France, dans le monde, à gauche, dans les débats, dans les milieux intellectuels. Je me positionne avec mon premier livre, La Fabrique du Musulman, sur certains débats, sur quelque chose que je caractérise comme une dérive, mais qui est une contribution à la discussion. C'est pas un texte pour rompre, mais c'est pour engager le débat. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. j'ai été ostracisé dans plein de milieux, des gens. Comme je l'ai écrit, je peux le dire à l'antenne. Notamment des universitaires, du jour au lendemain, certains, pas tous, mais beaucoup, m'ont pu adresser la parole du jour au lendemain, à la fois sur les réseaux, quand ils me croisaient dans la rue. C'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. Donc, à l'exception de quelques, quand même, je tiens à le souligner, à l'exception de quelques universitaires qui ont manifesté des gestes de sympathie, de solidarité, de soutien, qui sont extrêmement minoritaires, les autres, c'est un sujet sensible. Et puis, c'est pas trop la tendance du moment, donc, bon, voilà.
Très bien. Mais je crois que nous allons faire une première pause musicale en écoutant Et remettez-nous ça, d'Éric Robrèche, paroles de Bernard Dimet.
Et remettez-nous ça, remettez la musique, tourne la charade, piano mécanique, et tourne le moulin. Ça va, ça vient. Et remettez-nous ça, remettez la musique, tourne la charade, piano mécanique, ça va, ça vient. Et ça nous fait du bien. Il y avait la mère Dauphin, sans barbe ni moustache, 18 ans frais comptés et des yeux comme les tiens. Et quand le soir tombait, on se cachait sous les bâches, on nageait dans le bonheur et l'on n'en savait rien. L'amour tournait tout seul dans un vieux bal en planche, j'avais mes souliers fins, mon collant cellulo. Le plaisir du samedi durait jusqu'au dimanche avec Évangélie ou Ginette ou Mado. Et remettez-nous ça, remettez la musique et tourne la java, du piano mécanique et tourne le moulin. Ça va, ça vient. Et remettez-nous ça, remettez la musique et tourne la java, du piano mécanique, ça va, ça vient. Et ça nous fait du bien. Le patron du manège était unijambiste. La casquette à l'envers, on l'appelait Blériot. Calapomo d'ivoire et cravate à l'artiste. Sa femme était partie, son gosse était idiot. Quand la faim nous prenait, on se tapait des tripes. Avec un coup de vin blanc, ça passait comme une fleur. Après chacun son tour, on tirait dans les pipes pour gagner des nougats et des portes de bonheur. Et remettez-nous ça, remettez la musique et tourne la cheval, piano mécanique et tourne le moulin. Ça va, ça vient. Et remettez-nous ça, remettez la musique et tourne la cheval, piano mécanique, ça va, ça vient. Et ça nous fait du bien. Le manège de tape-cul, en face de la brasserie, le chamboule, tous les frites et la barbe à papa. Et juste au coin Mémen, qui tenait la loterie, on ne gagnait jamais rien, mais on n'y perdait pas. Mémen, à cette époque-là, c'était la beauté pure, plus belle que les poupées brodées sur ses coussins. À cause d'elle, j'ai reçu un verre dans la figure, j'étais déjà fiancé avec la mère Dauphin. Et remettez-nous ça, remettez la musique et tourne la chavane, piano mécanique et tourne le moulin. Ça va, vient. Et remettez-nous ça, remettez la musique et tourne la chavane, piano mécanique, ça va, vient. Et ça nous fait du bien. Et oui, la mère Dauphin, sans barbe ni moustache, 18 ans frais comptés et des yeux comme les tiens. Il y a longtemps, bien longtemps, qu'on a replié les bâches, mais tout de même on y repense et ça nous fait du bien. Et remettez-nous ça, remettez la musique et tourne la chava, du piano mécanique, ça va bien. Et ça nous fait du bien.
Donc, nous sommes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89.4 et à l'écoute de l'émission. Et pourtant, elle existe, cette littérature consacrée à la littérature prolétarienne et sociale. Et nous avons aujourd'hui donc comme invité Nedji Sidi Moussa pour nous parler de son parcours assez paradoxal, parfois inquiétant même, je dirais, dans l'éducation. Alors, revenons donc à cet entretien. Tu assumes de faire un parcours du combattant pour accéder à des fonctions qui devraient être légitimes, hein, de fait de ton cursus, ou qui le sont pour d'autres. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les causes de ces obstacles, cette course à obstacles. Mmh. C'est le mandarinat. Est-ce que c'est aussi le délabrement et le démantèlement de l'éducation nationale tu as abordé déjà, donc ouais, je propose qu'on y revienne pas, ouais, la question des écrits et l'ostracisme, etc. Et c'est une formule dans ton livre qui m'a incité à poser cette question, c'est, tu dis, le clou qui dépasse appelle le marteau.
Oui, oui. Non, mais c'est le problème du conformisme, en fait, qui existe dans plein de milieux. Ça existe dans le milieu militant, ça existe dans le milieu universitaire, ça existe dans d'autres microcosmes ou dans des espaces plus ou moins larges. Et effectivement, quand tu rentres pas dans des cases, quand t'es pas identifiable, quand t'es pas appuyé, soutenu, quand on fait pas ta carrière, quand on t'introduit pas, quand on ne te tient pas par la main, quand tu n'es pas trop docile non plus, bah c'est plus compliqué. C'est aussi simple que ça, hein. Donc Je pourrais parler de mes expériences dans le milieu militant qui m'ont confirmé cela. Hein. Quand tu n'es pas dans la ligne du parti ou du groupe, souvent c'est compliqué hein, de rester ou d'être invité ou d'être respecté ou de ne pas être mis en danger d'un certain point de vue. Et dans le milieu universitaire où on pourrait penser quand on est extérieur, quand on est profane, que la libre discussion, que le pluralisme de vues est valorisé, ben c'est pas forcément le cas. Parce que précisément, ce sont des petits milieux en crise, profondément. C'est ça qu'il faut, à mon avis, qu'il faut retenir. Hein. Ce qui se passe à l'université en France et à l'échelle globale, ça prête pas vraiment à la réjouissance. Et donc, il y a ce délabrement d'un service public, hein, parce que l'université publique, moi, c'est celle-là qui m'intéresse, hein, comme l'école publique, c'est celle-là aussi qui m'intéresse. Et aujourd'hui, à un tel niveau qu'on est dans une situation vraiment tendue, et donc ça se réfracte ensuite dans ou ça se répercute à travers des controverses idéologiques très fortes. Bon, une des dernières controverses polémiques dont on se serait bien passé, c'est celle qui a été initiée il y a quelques années maintenant par l'ancien ministre de l'Éducation, Blanquer, sur la chasse à l'islamo-gauchisme, entre guillemets, à l'université. Donc là, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est pas clair et qui est malsain, et que toutes ces guerres culturelles, comme on les appelle aujourd'hui, en fait, ce sont des armes qui sont utilisées aussi pour casser le service public, l'école publique, l'université publique, et pour remettre en cause les libertés fondamentales, les libertés d'expression et le pluralisme. Et malheureusement, dans des petits milieux dont on peut être proche, hein, c'est pas, je suis pas là pour justement remettre de l'huile sur le feu, mais précisément, comme ils sont dans une position défensive, tout ce qui va leur sembler un peu discordant, tout ce qui va un peu, amener de la complexité, oui, va ça. Être vu comme quelque chose qui met en danger le groupe. Donc là aussi, on est dans un moment qui est compliqué, je dirais, dans nos milieux, dans les cercles qu'on peut fréquenter, quand on veut amener de la contradiction pour enrichir et en fait pour essayer d'avancer dans une situation qui est très compliquée aujourd'hui, qui est très réactionnaire.
Ça, je pense que ça sera un sujet d'étude peut-être pour les historiens du futur. Comment, dans une période de crise, effectivement, de remise en cause globale planétaire, comment on a pu en arriver à penser qu'on pouvait se passer de l'échange, du débat et de la contradiction.
Tout à fait.
Ça, je crois que c'est quelque chose, et y compris dans tous les milieux.
Dans tous les milieux militants.
Ça, c'est une question qui relève peut-être la psychologie, mais d'un autre côté, c'est aussi dans les périodes de décomposition que peut-être c'est un chemin inéluctable pour se réarmer, en tout cas politiquement. Alors ton livre, pour revenir à ton livre, il se présente sous la forme d'un journal qui est tenu de janvier 2022 à juillet 2022. Donc tu es prof dans des collèges de banlieue, en REP, là où de nombreux fonctionnaires accumulent des points pour obtenir plus rapidement une mutation en province ou dans des villes un peu plus tranquilles, on va dire. Et quelles sont les relations avec tes collègues et quelles confrontations avec l'institution? Les projets d'établissement, c'est collectif, ça marche ou c'est binon? Et le syndicalisme dans toute cette histoire? Quel accueil?
Alors, je ne sais pas si je vais répondre à tout, si je vais retenir toutes les questions. Bon, alors effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, après une espèce de traversée du désert, mais bon, le désert s'étend, j'ai l'impression que ça grandit là en ce moment. Donc je suis finalement, j'ai été parachuté, je dirais ça, dans un collège de banlieue, REP. Donc je suis passé d'une situation de précaire à l'université à une situation de précarité dans le secondaire. Donc je me retrouve avec une classe d'âge, une tranche d'âge, des tranches d'âge, avec lesquelles j'avais jamais vraiment travaillé, sauf quand j'étais pion, hein, quand j'étais étudiant, donc ça datait un peu. Et la façon dont on enseigne, dont on fait cours à la fac, n'a évidemment rien à voir avec la façon dont on fait cours au collège, et plus encore en milieu prioritaire. Bon, mais ça, on pourra peut-être en reparler un peu plus tard. Ma relation avec l'institution, c'est simple. Hein. Là encore, je ne sais pas si les gens connaissent vraiment, mais quand on est contractuel, quand on est nommé une première fois, on n'a pas vraiment de visibilité. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas, c'était le cas d'autres personnes, sur la durée, en fait. Sur on ne sait pas si on pourra se projeter 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Donc moi, c'était compliqué, par exemple. J'avais des contrats, des avenants à mon contrat. J'étais pas payé de façon très régulière. Ça me mettait énorme pression, mais un ami qui était passé par là, qui m'a conseillé, m'a rassuré, m'a dit que c'était malheureusement un peu normal. C'est la normalité de l'institution qui est dysfonctionnelle, qui peut maltraiter aussi ses agents, mais ça fait partie du jeu. Donc on est déjà dans une, encore une fois, précarité structurelle.
Insécurité.
Une insécurité, oui, oui. clairement, une incertitude, ce qui fait que les autres, ceux qui sont installés, ne comprennent pas non plus. Mais en fait, ils comprennent pas qu'on en arrive là également. C'est vrai que c'est assez dur à expliquer et à rendre compte. Bon, donc on n'est pas considéré. Hein, on est finalement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du point de vue de l'institution, donc du rectorat, du ministère de l'Éducation nationale, nous ne sommes les contractuels qu'un volume horaire. Donc on signe pour un temps plein, c'est-à-dire 18 heures, et ensuite on peut être ventilé, on peut être nommé sur un établissement, sur deux, éventuellement trois établissements, sur un collège comme c'était le cas pour ma première nomination, ou comme c'est le cas aujourd'hui, sur deux établissements, un collège, un lycée, qui sont pas proches l'un de l'autre. Donc ça veut dire ça aussi, ça veut dire quoi encore? Le rapport avec les collègues, il est très variable. Par exemple, quand j'ai tenu mon journal, je suis tombé dans un établissement où les relations étaient très compliquées. Bon, c'est pas une question personnelle, pas complètement. C'était pas qu'une affaire personnelle, même si souvent on prend les choses de manière personnelle. On comprend mieux quand on a un peu de recul et quand on discute en fin d'année, parce que les langues se délient précisément. J'ai en revanche connu d'autres établissements où les liens étaient extrêmement chaleureux et solidaires. C'était le cas lors de ma première nomination, c'est le cas aujourd'hui, par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que maintenant ça fait deux ans que je connais cette situation d'être sur deux établissements. Quand on est sur deux établissements, il est très difficile d'avoir des liens, mais juste des liens amicaux, de convivialité, se repérer, savoir qui est qui, parce que on fait ses heures le matin dans un établissement, ensuite il faut prendre les transports, prendre son sandwich et aller donner cours. Oui, on est fatigué parce qu'on commence tôt, on habite loin. Donc, ça complique les relations, je dirais, normales de convivialité ou de tension. Hein. Sur les lieux de travail, il peut y avoir à la fois de la solidarité et à la fois de l'animosité. Tout dépend du climat et de l'ambiance. Et donc, par extension, ce qui va toucher au syndicalisme et autres, là aussi, c'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. J'ai connu, là aussi, des établissements où il n'y a jamais eu d'heure syndicale en tant que telle, où j'ai jamais croisé les syndicalistes ou les syndiqués à supposer qu'il y en avait, et d'autres où où l'heure syndicale était tenue, prise en charge, c'était une espèce de rituel, un moment de respiration, de discussion aussi, c'est important quand même, même s'il y a des choses à dire évidemment sur ce qu'est aujourd'hui, ce que devenu le syndicalisme enseignant, et est-ce qu'il constitue un espace de contestation ou est-ce que c'est simplement de la co-gestion? Là, il y aura des choses à dire.
D'accompagnement.
Voilà.
Syndicalisme d'accompagnement. Ouais. D'accord, là on voit un peu en fait le visage global et je veux dire l'aspect déabrement ne se limite pas à l'institution mais concerne aussi le champ politique et syndical dans l'éducation quoi. Et je vais revenir sur la relation avec les élèves. Donc c'est des enfants de 6e, 5e, 4e hein, si je ne fais pas d'erreur. Qui viennent de milieux populaires, marginalisés, souvent d'origine étrangère. Et à la lecture, on comprend quand même que c'est un choc, ce rapport que tu vas avoir, mais malgré des histoires partagées, en tout cas en filigrane, entre eux et toi. Et pourquoi ce ressenti comme un fossé, voire un abîme? Est-ce que c'est une question générationnelle ou un phénomène culturel plus complexe?
Oui, alors... Quand j'étais parachuté, c'est vrai que j'ai eu un petit choc, dans le sens où si j'avais en partage, la même origine sociale, même si pour eux, là aussi, hein, ils baignent dans un environnement, soit ils grandissent dans les territoires abandonnés de la République, dans des ghettos tout simplement, hein, des zones de pauvreté. Que les gens évitent dès qu'ils ont un peu de stabilité. Moi, je suis aussi passé par là ces dernières années. Donc, il y a la condition ouvrière ou précaire que j'ai en partage, que je connais, que j'ai connue et que je connais toujours. Il y a le fait qu'effectivement, ils sont aussi, pour la grande majorité, l'écrasante majorité, hein, je suis pas le type à faire des statistiques ethniques ou que sais-je encore, mais l'écrasante majorité de mes élèves ont des parents ou des grands-parents nés en Afrique, Afrique subsaharienne, Maghreb, peu importe. Donc comme moi, comme ma famille, hein, ils sont nés là-bas. Et troisième caractéristique commune, c'est que là aussi, ils grandissent, ils sont nés dans des familles musulmanes où la religion est un facteur important. Bon, néanmoins, malgré ces points communs, eh bien justement, j'ai senti un gouffre. Mais ce gouffre, effectivement, que tu l'as dit, il est d'abord générationnel parce que la façon dont ils parlent, leurs références culturelles, ce qui les fait rire. Ce qui les fait rêver, eh bien, c'est pas exactement les mêmes choses qui me faisaient rêver et rire à leur âge, ce qui est normal en un sens. Donc, sauf que en étant quotidiennement, parce que on les voit, ils me voient aussi très souvent. Hein, ils voient peut-être davantage leurs profs que leurs parents d'un certain aspect. Eh bien, on découvre, on se rend compte de ça. On se rend compte également, ce qui m'a également frappé, c'est le rapport aux nouvelles technologies. Mmh. Donc bon, c'est vrai que ça peut paraître bateau, classique, ça fait le vieux qui parle, mais pourtant, c'est une question qui, moi, m'a semblé à la fois centrale et pas assez traitée, même si on en parle un petit peu en ce moment, c'est au niveau des répercussions que ça a, en fait, sur leur santé. On parle aujourd'hui de santé mentale, mais on devrait dire la santé tout court, et en quoi c'est devenu un problème sanitaire dans la mesure où à la fois, je me rendais compte qu'en cours, il y a des très grandes difficultés de concentration, de lecture, de compréhension, donc d'un vocabulaire élémentaire. Je parle pas de vocabulaire élaboré, mais de mots simples, en fait, qui devraient relever de la culture commune. Mais parce que, donc, ils lisent beaucoup moins et sont beaucoup plus exposés aux images, aux vidéos courtes, et qui, justement, perturbent leur capacité à concentrer et les amènent pas à lire. Donc, le support papier, le livre papier, le journal n'appartient plus à leur environnement, en fait, immédiat et saisissable, comme ça pouvait être le cas d'un petit gamin comme moi, du Nord, d'un milieu immigré, mais dont le papa lisait les journaux populaires, quoi. Mmh. Donc, ça n'existe plus. Ou très peu. C'est extrêmement marginal. Et l'autre aspect, c'est le fait que, bah justement, comme ils sont aussi, ils ont des comportements de personnes dépendantes, en fait. C'est pour ça que parfois j'ai tendance un peu à m'énerver, mais pour leur bien, ils le comprennent. Quand on doit batailler au lycée pour faire en sorte qu'ils éteignent leur téléphone ou que je leur confisque aussi, que je le pose sur mon bureau, en tout cas, c'est pour bien leur faire comprendre que ça bousille leur cerveau et que, ça les amène, par exemple, à ne pas dormir ou à très peu dormir ou à avoir un très mauvais sommeil. J'ai eu cette expérience il y a pas très très longtemps. On en a discuté avec des élèves. J'en parle un peu dans le journal, mais j'ai eu l'occasion d'en reparler avec mes collégiens cette année. Et c'est vrai que j'étais surpris de découvrir que certains gamins ou gamines dorment à 2h du matin, ont de très grandes difficultés. Donc ils arrivent à 8h. Ils sont fatigués, ils s'allongent sur les tables, ils comprennent pas ce qui se passe, ils ont du mal à assimiler. Donc c'est un vrai problème de ce point de vue-là.
Je crois qu'on aura l'occasion dans beaucoup d'endroits de creuser un peu cette question, qui est en fait l'aboutissement d'un processus de communication avec les nouveaux réseaux sociaux qui est maîtrisé de A à Z par le système. C'est-à-dire c'est l'aboutissement, ce que tu décris, qu'on peut constater autour de nous, hein, dans les familles, etc., c'est l'aboutissement quand même d'un mode de communication qui a été pensé du côté de la Silicon Valley. Donc on va faire une petite pause musicale en écoutant Jeanne Moreau, La vie de cocagne.
Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps d'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu où me laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime. Un petit clocher de cocagne que que j'entendrai tinter l'hiver tout comme l'été, la nuit, le jour sur la campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie. On verrait chaque soir le tourbillon fou du monde devant la télé, mes chats, mes chiens roupillant à nos pieds à poings fermés, et qu'au dehors le vent d'hiver se donnerait un mal de chien pour faire plier les peupliers que nous aurions plantés à deux, et des soirées d'automne couleraient douces et monotones. Et chaque nuit on se dirait chérie, on réveillonne. Aïe, quelle petite vie de cocagne, l'hiver tout comme l'été, je pourrais pas m'enlacer, la nuit, le jour dans ma campagne, ni vu et ni connu, dans mon petit coin perdu. Mais v'là qu'il faut me tirer, me barrer, me tailler, foudre le camp. Je n'ai même pas le temps de m'oublier un instant loin du présent. Adieu mes chats, mes petits chats, mes chiens, adieu le vent. Ce vieux fauteuil au coin du feu, je m'y serais jamais planqué à deux. C'est bête ce rêve que je fais chaque jour dans ma petite auto, en venant du bureau, qui pourrit ma vie de nostalgie.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission. Et pourtant, elle existe, cette littérature. Et nous continuons de parler du livre de Nejis Sidi Moussa qui s'intitule « Le remplaçant, un prof précaire de banlieue » paru aux éditions de l'Échappée. Et que je vous recommande vraiment. Alors, on reprend un peu la fin de notre entretien. Donc on a vu qu'il y avait un caractère éphémère dans tes affectations. Un côté éphémère rime aussi avec la précarité, l'incertitude, ce que tu as très bien montré tout à l'heure. Et donc tu es un intermittent dans l'éducation. Et ton récit révèle les personnalités contrastées de tes élèves et les relations que tu y arrives, que tu parviens, qui ne sont pas toujours négatives d'ailleurs, c'est important à dire. Il y a beaucoup de choses très positives dans ton livre, à tisser avec eux. Et d'ailleurs, tu dis, ce qui t'importe le plus que tout, c'est d'armer intellectuellement et politiquement les générations montantes. Alors je dirais ceci malgré un environnement hostile, puisque en face de toi, tu as les réseaux sociaux qu'on a commencé à aborder, sur lesquels, je cite, « la stupidité avait force de loi chez ceux qui écrivent avec leurs pouces, mais pensent avec leurs pieds. » Est-ce qu'il n'y a pas là un côté « mission impossible » pour ne pas reprendre le titre d'une vieille série de la télévision que les moins de 70 ans ne peuvent connaître. Est-ce qu'il n'y a pas entre cette volonté d'armer intellectuellement et la réalité à laquelle tu es confronté, est-ce que ce n'est pas absolument impossible ?
Non. Moi, je pars pas défaitiste. Et je dirais même, quelques amis le savent en tout cas, que cette expérience-là, à la fois, elle m'épuise, elle est fatigante, elle est éprouvante en tout cas. Encore une fois, c'est ce que je décris dans le journal, les temps perdus dans les transports, les conditions de travail, le fait d'être sur différents établissements, les difficultés aussi de mes élèves qui vont se répercuter dans la salle de classe, etc., etc. Malgré tout cela, j'en ressors avec une forme d'optimisme précisément. Dans la mesure où je pense que si on a aspiration, si on a la volonté de transformer les choses, transformer la société, de changer le monde, si on n'a pas abandonné en tout cas cette perspective, et c'est mon cas, je n'ai pas abandonné cette perspective-là, je reste fidèle à mes convictions, même si elles ont pu évoluer, mais je reste fidèle à mes convictions révolutionnaires, eh bien je crois qu'on doit avoir, même si ce mot peut paraître un peu bizarre sur Radio Libertaire et dans ma bouche aussi, on doit aussi avoir foi dans la jeunesse. Et malgré tous ces défauts qui sont d'abord les nôtres, les défauts de la jeunesse sont les défauts des adultes, en fait. Les enfants, les outils qu'on leur donne, les idéologies nauséabondes qui leur arrivent, qui leur parviennent par bribes, c'est les adultes qui façonnent, qui forgent tout ça. Donc nous, on a une très grande responsabilité à leur égard, d'autant que, eh bien, ils s'occuperont de nous, tôt ou tard. Donc, et ils s'occuperont de nous en fonction aussi de la manière dont on les aura traités. Et je pense qu'ils auront raison. Peu importe leur choix, ils auront raison d'une certaine façon. Donc on a une ressors de cette expérience, même si elle n'est pas finie pour moi, et même si je ne sais pas combien de temps elle durera, mais je le fais en m'engageant pleinement, avec cette conviction-là, c'est qu'il y a des choses à faire. Donc contrairement à ceux qui vont cracher sur la jeunesse, et en particulier pour stigmatiser une certaine fraction de la jeunesse, et on l'a vu malheureusement avec des drames et des controverses récentes, où on essaie d'opposer deux France, où on essaie d'opposer deux jeunesses. Je pense que c'est ceux qui s'engouffrent dans cette brèche sont des criminels, tout simplement. Ce sont des criminels. Et donc, il faut être extrêmement vigilant dans ce contexte-là. Et moi, précisément, j'ai pas écrit ce livre pour leur rendre leur humanité. Hein. Je veux dire, pour moi, il y avait pas de doute de ce point de vue-là. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec eux, en fait, en réalité. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pas qu'avec eux, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on fait en direction de la jeunesse. Donc, on peut pas se contenter que de déplorer la chute du niveau, l'abêtissement, ou que sais-je encore, mais qui a pris ses responsabilités ces dernières années? Qui a donné du temps? Qui s'est consacré à des formes d'éducation populaire, pardon? Qui les a emmenés en sortie? Qui leur a ouvert des horizons? Bon. Il faut qu'on fasse le bilan aussi de ce point de vue-là. Qui s'est adapté à eux, qui leur a parlé, qui a fait preuve de sensibilité et d'attention. Donc non, la bataille elle est pas terminée parce que je pense qu'elle a à peine été commencée, je dirais pour nous d'un certain point de vue. Donc peut-être à part certains individus, certains groupes, mais il y a vraiment quelque chose à faire, sans démagogie évidemment. Hein, mais moi je avec Et là encore, je crois que si je n'avais pas eu cette expérience-là, je me serais pas rendu compte des possibilités et des obstacles. Bon, mais encore une fois, c'est pas une question individuelle. Je pense que c'est aujourd'hui quel est l'état d'esprit, quelle est la disposition d'esprit précisément de ceux qui ont prétention à changer le monde et la société. Or, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans une situation où on est qui est en crise, qui est tendue, où les espaces en fait militants, on va parler d'eux, hein, on va parler des espaces militants de seconde, eh bien il y a peu de cohabitation entre les générations déjà. Il y a peu d'espaces où eh bien les gens de différents horizons, de différentes générations cohabitent, coexistent, font des choses ensemble. Ça, je pense que ça fait partie du problème. Il faut y penser aujourd'hui dans la manière dont on intervient. Et c'est un ami hein, d'ailleurs qui anime une émission ici. Il a dit, il me l'a souvent dit dans les discussions qu'on avait en aparté, il dit que les espaces militants ou alternatifs où ça se passait bien et qu'il appréciait, c'est là où il y avait trois générations qui cohabitaient. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est la tendance majoritaire? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut être vigilant à ça.
Mais ça, je pense que c'est aussi l'aboutissement d'un processus idéologique du système qui arrive à fractionner les générations, alors qu'à une certaine époque, et ça existe encore dans certains milieux, il y a effectivement cette communauté de pensée au-delà des âges. Puisque avant, je veux dire, si on prend l'histoire militante, par exemple de ma génération, je veux dire, il y avait cette osmose entre des anciens, et il y avait même la recherche d'anciens qui pouvaient, et ça pouvait être contradictoire, les échanges, mais c'était un commun partagé, même si on n'était pas toujours d'accord, mais il y avait cette idée d'un combat aussi qui dépassait les générations, qui s'étalait au niveau de la planète, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la force du système, c'est d'avoir réussi quelque part à scinder et à opposer les gens. Si on prend la question la plus évidente, c'est sur le climat. On te dit, il y a des révoltes des jeunes sur le climat, ce qui est très bien, très encourageant. Peut-être que notre génération n'a pas assez fait, mais moi j'ai des textes des années 70, 74, où les gens, Drummond et d'autres, posaient déjà les questions du climat. Mais ils ont réussi à présenter ça comme lutter pour la défense de la planète, c'est lutter contre la génération précédente, donc pas contre le système. Résultat, on demande à ceux qui ont mis la planète qui ont incendié la planète de l'éteindre. C'est un point paradoxe. Par contre, je reviens sur deux points que tu as dit sur les transports. Je crois que c'est important ce que tu dis sur la précarité, la question des transports. C'est aussi quelque chose qui est, je pense, pensé. C'est-à-dire qu'à une époque, le patronat avait mis en place logement, transport à proximité. Ils ont brisé tout ça. Et tout ça parce que ça faisait un commun. Quand tu travailles dans un quartier, que tu habites dans le quartier Il y avait une unité, il y avait ça à Billancourt. Hein. Aujourd'hui, ben, on distend les liens. C'est pas le hasard si t'es, c'est un paradoxe. L'éducation, tu es d'une partie de la région parisienne et on t'affecte dans l'autre. Même d'un point de vue pédagogique, c'est une stupidité. Mais en même temps,
Alors, je sais pas si c'est pensé. En tout cas, c'est ce qui se passe de fait. Et effectivement. On voit cette bon, je pourrais parler longuement des transports, hein. Par exemple les profs qui commencent à 8h, quand ils prennent le métro, le RER, bah, ils sont à l'heure des prolos en réalité. Ils sont à l'heure des prolos, les visages sont fermés, sont ternes, personne ne parle, personne ne communique, personne n'est au téléphone, mais beaucoup sont sur leur téléphone, ce qui est très différent. Et quand il m'arrive, ça peut m'arriver parfois de commencer un peu plus tard en matinée. Oui, je vais plutôt prendre le métro, mais c'est l'heure des cadres, et c'est toute une autre atmosphère également. Ouais. Alors, ça veut pas dire qu'il y a davantage de convivialité, mais tout de même, dans l'habillement, la façon de communiquer, c'est quand même assez frappant, cette question de la non-mixité de classe dans les transports en fonction des horaires et puis en fonction des lignes aussi. Oui. Mais effectivement, quand on pense au temps perdu, l'énergie gâchée, le fait qu'on puisse même pas être dans des conditions où on puisse lire aussi, hein, parce que à la limite, bon, si tu passes dans des conditions plus ou moins agréables, une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure ou un peu plus, et pendant ce temps-là, tu peux te cultiver, tu peux t'évader un petit peu, pourquoi pas. Sauf que la dégradation des transports en commun, là, c'est un autre aspect de la case des services publics que je décris un petit peu dans le manuel, dans le livre. Je suis déjà en salle de classe. Donc dans le livre, en journal, eh bien, effectivement, il y a quelque chose à voir. Mais de la même manière que la case du service public à l'hôpital, on pourrait en parler également. Donc il y a ces offensives là, des choses qui paraissaient plus ou moins acquises à un moment donné à une génération. Donc voilà, aujourd'hui, par exemple, je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de prendre les transports en région parisienne, parce que c'est une épreuve, parce que encore une fois, sur certaines lignes, je ne vais pas dire lesquelles, on ne sait pas si on va arriver à l'heure, hein, pas seulement pour les émissions de radio, mais au boulot, et ça met une pression énorme. On arrive même tôt le matin dans des rames qui sont déjà bondées, donc c'est inconfortable à tous les niveaux. C'est extrêmement stressant en réalité. Hein. Ça joue hein, sur le moral de plein de travailleurs.
Ça, je pourrais. Moi, je suis banlieusard. Je pourrais depuis pratiquement mi-années 70, et j'ai vu la dégradation du service des transports, effectivement, les trains, les insécurités. Et il y a quelque temps, puisque je suis du Val-d'Oise, il y avait sur l'écran train supprimé par manque de chauffeurs.
Oui, voilà. C'est ça.
Et je reviens sur un autre point qui semble que tu as dit, on doit chercher les responsabilités, combien de sorties culturelles, etc. Il y a un point aussi que moi, je constate, c'est là, le fossé entre la banlieue et Paris. Mmh. Il m'arrive, parce que j'ai un grand retard culturel en matière d'exposition, de peinture, d'art, donc il m'arrive de temps en temps d'aller... Je croise fréquemment à Paris des écoles parisiennes qui visitent. Et la banlieue, c'est inaccessible pratiquement. Il y a là aussi un gouffre énorme entre... je dirais la plupart des villes des écoles de banlieue et Paris, quoi. Qui là, c'est encore un parcours.
Non, mais il y a quelque chose qui est choquant, hein, là aussi, parce que je suis de la génération où les gens ont des enfants, on commence à en avoir, et donc scolarisent leurs enfants, et ça permet de voir aussi la différence en termes d'offres scolaires et culturelles, parce qu'il n'y a pas seulement les cours, à la limite, les cours peuvent être plus ou moins les mêmes, mais c'est tout ce qu'on peut faire pendant le temps scolaire et donc ces sorties qui sont extrêmement importantes, hein, qui permettent aussi d'ouvrir des horizons, de se cultiver, de se poser des questions, eh bien ça commence très tôt, dès l'école primaire en fait. Donc la possibilité d'aller dans les musées, d'aller voir des expos, de recevoir des artistes. Mes élèves, malheureusement, pour eux c'est extrêmement exceptionnel, hein, dans le ghetto français, et pourtant à vol d'oiseau, c'est pas très loin d'ici. Mais il y a effectivement ce fossé qui est profondément intégré chez eux. Pour eux, Paris, c'est déjà un autre monde, en fait. C'est celui des bourgeois, c'est celui des gens qui parlent différemment, c'est celui des gens qui sont habillés différemment, et donc qui pourraient potentiellement les juger ou les stigmatiser. Et puis, il faut déjà avoir 2 euros ou 3 euros en poche pour se payer un ticket de métro, éventuellement prendre un café, même si c'est pas toujours dans leurs habitudes. Il y a vraiment une frontière, il y a des frontières invisibles, mais qui sont extrêmement puissantes. Et ces frontières, elles sont pas liées aux origines nationales des gens ou à leur religion. C'est des frontières qui touchent à la pauvreté, à l'argent, à la condition sociale. Mmh. Et ça existe, y compris dans une des zones les plus riches du monde. Et ce contraste, il est encore plus violent. Et mes élèves, ils le ressentent, ça. Mmh. C'est pour ça que je dis notamment, en conclusion, malgré toutes les difficultés que je peux avoir, que je ne cache pas quand je fais mes cours, quand je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année? Est-ce qu'il y a au moins un cours? Est-ce qu'il y a au moins une leçon qui vous a parlé? Eh bien, mes élèves de seconde, c'était pourtant une classe extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Les deux tiers, d'ailleurs, ils étaient en seconde générale. Malheureusement, ils n'avaient pas le niveau, hein. Mais les deux tiers ne sont pas passés en première, hein. Ils ont doublé ou ils sont partis en pro. Eh bien, ils m'ont dit, c'est le cours sur la ségrégation scolaire. On avait fait une activité, notamment sur une localité de Seine-et-Marne. Et en fait, ils ont compris qu'ils se faisaient avoir. Que le système, précisément, les maltraitait et les discriminait. Et ils ont compris que c'était pas en raison de leur religion, c'était pas en raison de la nationalité de leurs parents ou de la leur, c'était en raison de leurs conditions sociales.
Voilà. Je vais terminer par une dernière question. Je vais pas revenir sur la crise globale qu'on a évoquée, simplement pour une petite précision. En fait, tu es conscient que la crise de l'éducation ne peut pas non plus simplement se réduire, comme certains le prétendent ou ont cru, dans la recherche de solutions pédagogiques.
Non. Et puis, là aussi, c'est pas les profs qui vont régler le problème de l'école. Oui. C'est pas les parents. C'est pas nécessairement les élèves non plus, mais ça sera pas sans eux. C'est une question politique. C'est une question de société. Donc, au même titre que, encore une fois, la question de comment on se déplace, comment on se nourrit, comment on est soigné. Ça peut pas être une question de spécialistes ou de premiers concernés, comme on leur dit. Puisque ça nous concerne tous. Oui. La transmission, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit retenir, comment est-ce qu'on forme les générations futures. Donc encore une fois, celles qui vont nous soigner, celles qui vont payer nos retraites si le système existe toujours. En tout cas, c'est l'avenir, c'est le futur. Donc on a une responsabilité par rapport à eux. Eh bien, c'est une question qui doit tous nous interpeller. Et moi, j'ai pas. Certes, c'est vrai que j'ai voulu partager ça à travers ce journal parce que je suis enseignant depuis maintenant 3 ans. Hein, ça fait 3 ans maintenant. Néanmoins, j'ose espérer que ça intéressera des personnes qui sont pas dans le métier, qui n'ont pas été profs, qui ne sont pas forcément parents, mais qui sont concernés par la question, eh bien, du devenir de la société et donc des jeunes générations, des générations montantes.
Voilà. Donc, avant de nous séparer, donc, merci Nedjib Sidi Moussa d'être venu nous parler de ton livre « Le remplaçant, un prof précaire de banlieue aux éditions de l'Échappée ». Je tiens à souligner que ce livre se caractérise par une écriture fluide, que la lecture en est agréable, qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'empathie envers les mômes, il y a aussi de la dérision, de l'autodérision, qui ne sont pas absentes, et en général, ça fait du bien, et de multiples dérives et vocations culturelles qui élargissent le champ de la réflexion, donc aux éditions de l'Échappée. Et j'ajoute qu'il y a un rendez-vous, si j'ai bien compris, pour parler de cet ouvrage, le 21 janvier.
Le dimanche 21 janvier.
Jour où on a coupé la tête à Louis XVI. le 21 janvier, donc, à Publico.
Après-midi.
Voilà, à 14h, 15h.
Voilà. Laura n'a pas précisé, mais on le précise
au début d'après-midi.
Voilà. Dans l'après-midi.
Nous allons faire donc une nouvelle plage musicale avec Léo Ferré, la Marseillaise.
Je connais une grue sur le vieux port avec des dents longues comme la faim et qui dégrafe tous les marins, qu'on l'âme chagrine et le cœur d'or. C'est à Marseille que je vais la voir, quand le soleil se fout en tweed et que le Mistral joue les caïdes. C'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Elle a des jupes embarquées, tous les chalands qui traînent la nuit et des froufrous qui font tant de bruit qu'on les entend au bout du quai. Il suffit d'y mettre un peu de soie, c'est une putain qu'aime que la braise et moi je l'appelle la Marseillaise, c'est bien le moins que je lui dois. Arrête un peu que je vois si tu fais le poids. Et si j'en aurais pour mon fric. Arrête un peu que je vois si les étoiles couchent avec toi. Et tu me diras combien je te dois. Je connais une grue dans mon pays, avec les dents longues comme le bras, qui dégrafait tous les soldats qu'avaient la mort dans leur fusil. C'est à Verdun qu'on peut la voir, quand les souvenirs se foutent en prise, et que le vent d'Est pose sa valise, et que les médailles font le trottoir. Elle a une voix embarquée, tous les traînes putains qu'elle rencontre, et il paraît qu'au bout du compte, ça en fait un drôle de paquet. Il suffit d'y mettre un peu de soi, au fond c'est qu'une chanson française, mais quand on l'appelle la Marseillaise, ça fait bizarre dans ces coins-là. Arrête un peu que je vois si t'as de la voix. Si j'en aurais pour mes galons. Arrête un peu que je vois et puis que j'abreuve tous vos sillons. Et je vous dirai combien ça fait. Je connais une grue qui a pas de principe, les dents longues comme un jour sans pain, qui dégrafait tous les gamins, fumant leur vie dans leur casse-pipe. C'est dans les champs qu'elle traîne son cul, où il y a des croix comme des oiseaux, des croix blanches plantées pour la peau des autres bien entendu. Celle-là, on peut jamais la voir, à moins d'y voir les yeux fermés et le périscope dans les trous de nez, bien allongé sous le boulevard. Suffit de leur filer quatre bouts de bois et de faire leur lit dans un peu de glaise et de leur chanter la Marseillaise et de leur faire une belle jambe de bois. Arrête un peu tes cuivres et tes tambours et ramène-moi accordéon. Arrête un peu tes cuivres que je puisse finir ma chanson. Le temps que je baise ma Marseillaise.
Radio Libertaire, donc 89.4, à l'écoute de l'émission « Et pourtant, elle existe, cette littérature ». Après avoir terminé cet entretien avec Nedjib Sidi Moussa, nous allons aborder un livre, Michel va nous évoquer le livre de Michel Ragon « Dans les ateliers de Soulage ».
Très bien. Alors avant de passer sur Soulage, on va finir peut-être les informations sur Nedjib. Donc le dimanche 21 janvier, après-midi, donc vous trouverez sur le site de l'agenda militant ou sur le blog du groupe Commune de Paris de l'AFA, le détail de son intervention ainsi que l'heure et voilà et où nous retrouver et nous vous espérons très nombreux voilà et que la discussion sera à mon sens très intéressante. Merci. Donc oui on va partir sur le livre des ateliers de Soulage qui est un livre que Raphaël a trouvé cet été pendant ses vacances à la ville de Sète en visitant le musée
à Rodez,
en visitant le musée de Soulage.
Le musée Soulage, qui était proche de Ragon.
Voilà. Donc en fait, Michel Ragon a écrit ce livre, Les ateliers de Soulage, dans lequel il montre son grand intérêt pour l'art abstrait et sa profonde connaissance de la genèse d'une œuvre d'art qu'il décline dans son livre, donc, en 5 ateliers de Soulage. Il rencontre Soulage, alors jeune artiste de 28 ans, en octobre 1947, au Salon des Surindépendants. Et pour lui, ces toiles sont les plus innovantes et les plus insolites du salon. Alors, le Salon des Indépendants a été créé, ainsi que l'association, à l'automne 1928 par quelques artistes ne voulant plus de jury d'admission et remettant en cause les restrictions imposées par la nouvelle réglementation du Salon des Indépendants en 1924. Voilà. Donc c'est en plus du Salon des Indépendants. Donc ces toiles de, qui sont donc exposées au Salon des Surindépendants par Soulages, ce sont trois grands tableaux aux tonalités sombres marquées par des rythmes robustes. Soulages est né à Rodez le 24 décembre 1919 et il décède le 25 octobre 2022. Son père est carrossier de voiture à chevaux et décède quand Soulages a 5 ans. Soulages est élevé donc par sa mère et sa sœur et il passe beaucoup de temps dans les ateliers et les échoppes. Il est fasciné par la technique, curieux de tous les métiers, toutes les pratiques et déjà y peint. Et là, on peut rejoindre le discours de Najib sur, effectivement, il n'y avait pas d'écran à l'époque, donc les gens allaient rencontrer les autres, regarder, apprenaient. C'était dans l'école, c'était hors l'école, c'était dans le voisinage. Et ça a été le cas de Soulages qui... cette enfance a beaucoup, beaucoup aidé son art futur après. Donc, il est admis à l'École supérieure des beaux-arts de Paris, mais repart à Rodez, car l'enseignement ne lui convient pas du tout, parce qu'il est beaucoup trop académique à l'époque. En 1941, il rentre à l'École des beaux-arts de Montpellier et y rencontre Colette, qu'il épouse un an plus tard et qui restera la compagne de toute sa vie. Donc, le livre de Michel Ragon démarre par l'atelier de Courbevoie, le tout premier atelier, du 14 mars 46 au 14 décembre 47. Soulages est un praticien, avant tout un praticien. Et pour lui, la peinture, ce sont surtout des matériaux, des châssis, des toiles, des pigments, des outils, tout ce qui a en fait rythmé sa jeunesse. Il attache beaucoup d'importance au choix du format, au rapport entre la hauteur, la largeur et l'épaisseur de la toile. Pendant l'hiver 47-48, il réalise 5 peintures au goudron sur du verre. Alors on peut se demander pourquoi du goudron, parce que c'est quand même pas très facile à travailler. En fait, il s'agit d'un souvenir d'enfance, d'une tache de goudron sur un mur, dans lequel il analyse la viscosité du goudron, la force de projection, les coulures dues à la verticalité du mur et la pesanteur liée au grain de pierre. Tout ça, ça se voit difficilement sur les écrans des smartphones. Hein. Voilà. Cela l'entraîne dans un autre monde, c'est ce qu'on appelle la rêverie, l'imagination et la créativité. Pour lui, c'est une image abstraite dans sa singularité goudronneuse. Pour lui, c'est une vraie qualité de chose. Un smartphone n'offrant pas justement ces caractéristiques. Par manque d'argent au départ, puis par choix ensuite, il invente ses propres outils, parce que pour lui, un pinceau ouvrier a plus de force et détourne de leur fonction des outils d'artisan. Donc il invente, il part du racloir du tanneur, du couteau de l'apiculteur, du cuir de semelle pour étendre la couleur, de la gouttière pour la déverser. Il utilise des éponges diverses et broie lui-même ses couleurs. C'est vraiment un artisan, en fait. Hein. Il ne fait pas de travaux préparatoires ni d'esquisses, contrairement à beaucoup de ses confrères. Et il dit « Quand je commence un tableau, je ne sais pas ce que je veux faire. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. » Et ça, c'est une sacrée école aussi. Donc ensuite, on passe au deuxième atelier de la rue Chéclair, qui est du 15 décembre 47 à l'automne 1957. Atelier où Soulages et sa femme habiteront pendant 20 ans et que Michel Ragon fréquentera assidûment. Ce sont les années fertiles de la maturité pour Pierre Soulages et le début de sa vie publique internationale et sa réputation s'affirme plus vite à l'étranger, notamment en Allemagne et aux USA, que par exemple en France. Les peintures de Pierre Soulages sont de plus en plus grandes et c'est le début de la couleur noire, mais aussi des bleus, des rouges, des verts et des jaunes. Il déménage ensuite donc, et il passe à l'atelier de la rue Galande de décembre 57 à décembre 73. La peinture de Pierre Soulages se modifie, évolue. Michel Ragon écrit « À la toile charpentée par de solides armures noires étalées au couteau, succéderont des bandes de couleurs qui s'étaleront par taches, puis en des sortes de rubans. » La sérialité marque l'évolution de Soulages. Donc la sérialité en peinture, c'est le caractère de ce qui est successif. Ce sont des œuvres d'art en série qui sont fondées sur la répétition d'une unité standard. Pour Soulages, en fait, sa peinture, pour lui, ne porte aucun message. Et il dit qu'il laisse cela aux prophètes et aux facteurs. L'atelier de la rue Saint-Victor, depuis le printemps 74. Donc, les ateliers, tous les ateliers successifs, Michel Ragon explique que tous les ateliers de Soulages sont vides. Toutes ces toiles sont retournées contre le mur dès qu'elles sont terminées et il ne les regarde plus jamais, en fait, avant de les exposer ou de les vendre. Et seul est en place la toile sur laquelle il est en train de travailler. Il dit qu'il ne veut pas se laisser influencer par ses travaux précédents et qu'il veut à chaque fois redémarrer quelque chose de nouveau. Tous ses outils sont très propres et très bien rangés dans des espaces de rangement qu'il a fabriqués. Donc là, on retrouve l'amour du travail de l'artisan, du travail bien fait, bien propre, bien rangé, bien nettoyé. Et une pièce unique à la fin. Il aime travailler seul et surtout la nuit. Il supporte pas du tout qu'on le regarde travailler parce que je pense qu'il part, enfin, ce que dit Michel Ragon surtout, il part dans son monde intérieur en fait. Hein. Donc avoir des observateurs le gêne beaucoup et comme c'est quelqu'un d'assez timide, il aime pas du tout qu'on le regarde. Dans ses expositions, Pierre Soulages accroche ses toiles au plafond, dos à dos, pour dépayser le visiteur et le placer dans un espace architectural nouveau. Et en même temps, c'est aussi le fait de montrer qu'il n'y a pas d'endroit et d'envers, en fait. Hein, il rentre dans un univers complet. Dans le premier temps de son installation, il y a des couleurs dans ses tableaux, puis au début 79, du noir et du noir partout. L'exposition de 79 au Centre Georges Pompidou, qui fut une grande surprise, et fut très discutée. La place au premier plan est le place au premier plan de la créativité picturale mondiale. Par contre, ça fait vraiment le bazar et certains veulent partir de l'exposition parce qu'ils supportent pas du tout cette peinture. Pour Soulages, le noir reflète la lumière, c'est sa grande découverte, et ses toiles peuvent avoir des reflets changeants selon les heures de la journée en fonction de leur environnement, si elles sont proches de la mer, proches du ciel, proches de la terre. C'est ce qu'il va appeler le noir-lumière ou l'outre-noir. Ensuite, on passe donc à l'atelier de 7, depuis décembre 59. Pierre et Colette Soulages s'installent définitivement dans une maison qu'ils agencent selon leurs souhaits et leurs besoins, surplombant le Cap d'Agde, à côté du cimetière marin et où Michel Ragon a séjourné plusieurs fois, parce qu'en fait, Michel Ragon va le suivre effectivement pendant toute sa vie. Et il écrira de nombreux articles sur lui, car Pierre Soulages, homme de toutes les curiosités, a créé de nombreux objets, tableaux, estampes, gravures, tapisseries et vitraux. Ce qui frappe le plus Michel Ragon, en reprenant tous les dossiers de presse concernant Soulages, c'est que sa démarche originale, sa spécificité, son éthique n'apparaissent nulle part. Pourtant, pour Michel Ragon, elle est pourtant à rapprocher du courant littéraire le nouveau roman, de Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet et Claude Simon en 1960. Donc, pour la bibliographie, donc, le livre s'appelle « Les ateliers de Soulages » de Michel Ragon. C'est à la bibliothèque Albin Michel, dans la collection Idées. La première édition est de 1990 et la seconde de 2004. Et je vous conseille vraiment beaucoup de lire ce livre.
Je crois que ça vient d'être réédité, puisque Albin Michel a réédité pas mal de titres de Ragon pour l'année du centenaire de sa naissance. Ce que je crois qu'il y a à souligner dans l'approche de Ragon de la peinture de Soulages, c'est l'histoire aussi d'une proximité qui va durer des années de l'après-guerre immédiatement, jusqu'à la mort de Ragon en 2020. Et Soulages meurt deux ans après. Et un des derniers textes que j'ai trouvé en visitant le musée Soulages, un des derniers textes entretien de Ragon, avec la participation de Françoise Ragon, c'est en 2019 sur une exposition de Soulages à Rodez. Et il y a un journal local, La Dépêche, je crois, La Dépêche Gemini, quelque chose comme ça, qui fait un gros dossier. Mmh. Et dedans, il y a un entretien de Michel Ragon. Et ça, je crois que c'est important à montrer. C'est-à-dire le fait que l'intérêt de Ragon pour Soulages, c'est pas quelque chose qui s'est fait d'un point de vue mercantile, comme certains ont pu le penser ou l'écrire, mais il l'a connu très jeune. Hein. Et d'ailleurs, après, il s'intéresse au mouvement Cobra, surréalisme, etc. Et deuxième point, c'est que ça renvoie, et on va pas y revenir aujourd'hui, mais on y reviendra dans la revue Fragments, mais peut-être aussi lors d'entretien, mais c'est toute la question aussi de ce qui est ressenti comme l'art abstrait, les débats qui sont entraînés dès chez Poulaï dans les années 30, et après, même on a publié dans le premier numéro qu'on a sorti en hommage à Ragon un texte des années 50 où, je crois que c'est Constant Magva, le mineur belge, qui dit mais l'art abstrait c'est pas pour les travailleurs, et Ragon qui défend un autre point de vue, et là il y a tout un débat qu'est-ce que c'est que l'art abstrait, et alors c'est vrai que Soulages c'est une peinture particulière, hein. Moi je suis pas sauté dedans comme ça, hein. Il faut découvrir, en plus il y a, je crois, dans le cadre de ce musée à Rodez, il y a le temps aussi de s'immerger un peu, mais là il y a aussi des débats, je pense, sur lesquels on reviendra. Qu'est-ce que c'est que l'art abstrait, et pourquoi les travailleurs seraient interdits de séjour dans cette question. Alors voilà, donc merci Michel, et on va maintenant, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas d'aujourd'hui, qui n'est pas récent, puisqu'il est de 2011. Et on aborde cet ouvrage dans le numéro 8 de Fragments qui va sortir ce mois-ci. Il s'agit d'un roman de Vincent Di Martino qui s'intitule « Le couloir de l'horloge » qui est paru en 2011 aux éditions « Le temps des cerises ». Alors déjà, s'il y avait que notre association, notre revue, a été en contact avec Vincent Di Martino à la suite de la lecture d'un texte, un abonné a présenté un texte définissant un peu notre démarche de l'association sur le site Mediapart. Et Vincent Di Martino a découvert ce texte et il a dit « mais en gros, ce que vous faites, c'est un peu ce que je ressens ». Et il y a eu un échange, un courrier, et ensuite on a pris connaissance du livre « Le couloir de l'horloge ». Donc l'auteur, Vincent Di Martino, est né à Roubaix. Il a travaillé durant 13 ans dans une grande entreprise du textile, la Lainière, à Roubaix. Hein. Et je rappelle, Roubaix a un moment été la capitale mondiale du textile. Hein. Moi, il se trouve que ma mère a travaillé à Ligne dans le textile à une époque. Et c'était quelque chose de très important dans la région. C'est fondamental. Mmh. Puis ensuite, c'était l'ossature de la région. Hein, et tout gravitait, le football, enfin tout autour. Était sponsorisé, etc. Puis ensuite, Vincent Di Martino a travaillé dans le bâtiment comme technicien chauffagiste. Alors, le roman qu'il nous propose, donc « Le couloir de l'horloge », a comme cadre une usine du textile qui, étrangement, ressemble à la Lainière, mais aussi, l'autre protagoniste, je dirais, de ce roman, c'est la ville de Roubaix. Alors, au-delà de la trame romanesque qui met en scène des protagonistes, qui sont des personnages, des ouvriers, des travailleurs de l'entreprise, c'est en premier lieu, je dois dire, une immersion dans une usine du textile, c'est-à-dire une peinture des lieux, un espace gigantesque. Hein, c'est la Linière, c'est pas une petite entreprise locale. Hein. C'est fait de multiples alvéoles, je dirais de multiples alvéoles qui sont nécessaires à un travail de type tayloriste. Hein. Ils sont isolés, mais physiquement solidaires dans le processus de production. Et ça restitue bien les conditions de travail à la fin des années 70 dans ce secteur. L'usine, ce sont aussi des hommes, des femmes, des chefs, des exécutants. Mais là, ce qu'il y a vraiment de... ce qui d'ailleurs, le titre le montre. Mais il y a vraiment une architecture de l'entreprise, un urbanisme qui conditionne au quotidien les relations des uns et des autres. Hein. On peut aujourd'hui s'extasier peut-être... comme devant la piscine de Roubaix, en disant voilà, c'est l'art déco, etc., d'une époque. Mais là, en fait, ça, c'est quelque chose qui façonne les relations humaines, ou qui essaye de les éviter, avec des salles immenses, le bruit assourdissant des machines, les gestes répétitifs, la chaleur suffocante, lorsque dehors le thermomètre prend de l'altitude, les prises de service, quand se croisent les équipes, hein, on a là des équipes, une majorité d'ouvrières qui sont transportées par les bus de l'entreprise et qui croisent des hôtes au changement d'équipe. Et nous palpons ici le vécu quotidien de l'exploitation dans ce secteur industriel au gré des situations auxquelles sont confrontés les personnages. Donc il y a toute une narration, j'en reparle un petit peu après. Mais il y a aussi une découverte des différents métiers, hein, les peignerons, les rattacheuses, les bobineurs, les pelotonneuses, les soigneuses de continu affilée, ou les machines même, les nappeuses. Chaque employé est rivé à sa tâche, mais cette tâche individuelle ne prend de sens que par sa complémentarité avec celle des autres. Et je pense que cette complémentarité, il faut essayer aussi de la concevoir au niveau syndical et humain. Et c'est ce qui se passe dans la narration de l'exploitation de l'oppression. Il y a une résistance, hein, dans ce roman. Et ben le prétexte, un peu, c'est une annonce patronale qui déclare la suppression de 340 emplois. Donc Vincent Di Martino nous fait vivre la grève, l'occupation, les tours de garde, les piquets de grève, la confrontation avec les CRS et la fraternité inhérente à chaque lutte. Ça, je crois que c'est fondamental. Les luttes, c'est pas simplement un rapport de force avec le patronat, c'est aussi la destruction des rapports quotidiens entre les gens et une nouvelle découverte de l'autre. Ça, je crois, enfin, tous ceux qui ont vécu un peu quelques grèves significatives, je ne parle pas d'une grève de 24 heures, mais une grève qui s'inscrit dans la durée et qui... Enfin, bon. Voilà. Donc, une image donc fidèle à ces luttes des années 70-80, quand les patrons et l'État ont choisi de liquider des pans entiers énormes de l'industrie. Et comme ce sont des incapables, aujourd'hui, ils se disent, ah ben, il faut peut-être, pour l'intérêt de la planète et pour l'intérêt de l'indépendance de l'industrie, relocaliser tout ce qu'ils ont détruit. Enfin, bon, je pourrais parler de la Poste où ils sont en train de refaire tout le contraire de ce qu'ils ont fait pendant 20 ans avec la distribution des colis. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ne fonctionnent qu'en fonction de la marge immédiate et qui n'ont pas de pensée globale. Ou sinon, après nous, déluge. Donc l'usine ne se réduit pas à l'affrontement de classe au sein des groupes de travail. Il y a des équipes, il y a des liens qui se tissent, des rivalités, des amours naissantes, d'autres agonisantes. Et c'est ce que vivent Nathalie, Jean-Marc, Tony, Sébastien, Marie, pour le meilleur, pour le pire. Il est cependant, et ça, j'insiste un peu, ça me semble vraiment important, un autre personnage que l'auteur met en scène, c'est David de Roubaix. Nous parcourons son histoire et il fait référence à son passé familial, à la grand-mère, les mutations sur le plan de l'urbanisme, parce qu'en fait, il y a un peu toute une, comme une enquête, il y a une filature dans la ville et en fait, c'est un prétexte aussi à raconter cette ville. On voit les mouvements sociaux de 36, l'essor du secteur textile qui fera, je l'ai dit, de Roubaix la capitale mondiale de la laine et ensuite les années noires, la récession. Les fermetures d'entreprises, et comme le dit un personnage, pour relever cette ville, il faudrait appeler à la rescousse tous les géants du Nord. Mais il y a des choses qui bougent aussi au niveau d'urbanisme dans cette localité aujourd'hui. Donc ce livre mérite le détour, et deux jours après en avoir achevé sa lecture, j'ai regardé sur la 2 un film documentaire, Nous les ouvriers, dans lequel témoigne une personne ayant travaillé à la Linière, mais ses propos n'abordent pas la question des luttes qui ont lieu, il s'agit sans doute d'une mémoire sélective en tout cas, Et, mais le documentaire mérite un détour, hein. C'est pas du tout pour dire qu'il n'est pas important, mais précisément sur la question de la lumière, c'est pas le, le centre de la lutte collective qui est en jeu. Donc je rappelle Le couloir de l'horloge de Vincent Di Martino aux éditions Le Temps des Cerises. Et comme nous avons trouvé que ce livre était intéressant, nous le diffusons. Donc on peut aussi le commander auprès du CLOPS, hein, CCLOPS, 79 rue du Docteur Roux, 79 rue du Docteur Roux, 95-130 Franconville-Lagarenne. 95-130 Franconville-Lagarenne. Alors, j'en ai fini avec ce livre de Vincent Di Martino. Et pour terminer, on va aborder un petit peu le sommaire de du numéro de Fragments, ce numéro qui est en cours de tirage. Hein. Il va faire 144 pages, hein. C'est un record. D'ailleurs, on a un peu trop dépassé. Non, mais budgétairement, faut qu'on arrête parce qu'on reçoit beaucoup de propositions, de contributions. Il y a un élargissement, hein, c'est modeste, hein, on va pas prendre le melon, mais c'est quand même significatif que ça correspond à quelque chose. Et nous, notre idée, quand on a créé la revue, c'était de dire la littérature prolétarienne, ce n'est pas quelque chose qu'on conjugue au passé, simplement, mais c'est une réalité, parce qu'il y a encore des travailleurs, des prolétaires, il y a encore des ouvriers en France, et ailleurs, parce qu'on s'en fout un peu de la littérature prolétarienne, ça n'a jamais été quelque chose de francophone, hein. Il y a un courant francophone avec la Belgique, etc., mais il y a eu en Écosse, il y a eu en Hongrie, il y a eu dans les pays de l'Est, il y en a plein, on y reviendra, parce qu'on va essayer de faire des dossiers dans la revue Fragments sur un auteur précis. Enfin bon, on a pas mal de projets. Donc là, il y a nos contributions habituelles, un peu le feuilleton de Franck Thiriot qui relate un peu la saga d'un titi parisien, on va dire, qui a pas mal d'échos. On revient sur des poèmes de Tessie Rome, qui était facteur, et on a un gros dossier d'Éric Louis, hein, qui était cordiste, hein, travaillait dans les silos de betteraves, un travail très très dur, hein, et il a écrit plusieurs livres. Donc on a fait avec Robin, un membre du CLOPS, un petit dossier, enfin un bon dossier sur lui, en citant plusieurs de ses ouvrages. Un qui est peut-être plus connu que les autres, c'est Au sens du commun, c'est On a perdu Quentin, qui relate le drame de ce collègue de boulot de 21 ans qui va mourir dans le silo, hein. C'est des silos où ils fabriquent le sucre, c'est-à-dire qu'ils sont chargés au départ, dans la conception, ces immenses silos où on descend en cordée, il y avait une espèce de turbine en bas qui devait décrasser au fur et à mesure. Cette turbine n'a jamais marché. C'est la marque, par exemple, il fait référence là, qui est très sympathique, c'est la marque Candy, par exemple, hein, qui fabrique. Et en fait, c'est des conditions de travail très très dures. Il faut travailler à la pique, en cordée, on a froid ou très chaud. Enfin, ça dépend du moment. Et Quentin, 21 ans, fait crever à la fin d'une vacation. Il va se désencorder un quart d'heure avant la fin, et il y a un glissement, et il raconte un peu, Éric Louis, ce drame, mais il raconte aussi son autopolographie, c'est le titre de son livre, où Mes 30 pas glorieuses, où il raconte un peu son parcours. Il y a un entretien avec lui, et on vient aussi sur l'association qu'il a créée, qui y participe, qui mène des batailles juridiques aussi, qui s'appelle les cordistes en colère, hein, qui est intéressant aussi, parce que bon, là c'est aussi une forme d'auto-organisation, comme dans beaucoup de secteurs. Le mouvement syndical traditionnel, ou même pas traditionnel d'ailleurs, ne répond pas toujours à ses besoins. Donc on a fait un peu un zoom sur cette question. Il y a la suite de l'étude que mène Philippe Jeunesse sur les publications de la littérature prolétarienne de 1970 à 2020. Là, nous sommes dans la période 2000-2020, où il présente un certain nombre d'auteurs. Ça concerne tous les métiers, ça concerne tous les sexes, ça concerne toutes les origines. Il y a vraiment, je pense que ce travail de Philippe Jeunesse est essentiel, hein, puisqu'en fait, il complète le travail d'Henri Poulaille dans les années 30 jusqu'aux années 50-60, le travail de Michel Dragon, le travail de Thierry Maricourt. Et là, il y a quelque chose qui permet à quelqu'un, et aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, Najib, qu'un de tes vocations, c'était de transmettre des choses. Eh bien, nous, on s'aperçoit en transmettant un certain nombre d'écrits que il y a des gens qui demandent plus d'informations, et vraiment le travail de Philippe Jeunesse, ça permet, tiens, ben, tel auteur je connais pas, je peux aller à la source. Des fois c'est des bouquins qu'on peut trouver qu'en occasion, mais là c'est aussi un volumineux dossier. Après il y a les rubriques habituelles sur il y a d'autres contributions, d'autres nouvelles, hein, d'autres textes, et il y a aussi la présentation d'ouvrages qui nous ont particulièrement plu, qui ont été, voilà, ça donne 144 pages, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je remercie notamment avec Éric Louis, que j'espère on pourra faire venir dans cette émission, et sinon je remercie aussi les auditeurs et les auditrices de Radio Libertaire qui nous ont contactés lors, par exemple, en direct, lors des émissions sur le livre de Michel Dragon. Je rappelle qu'on vient de publier, de rééditer. Nous sommes 17 sous une lune très petite. Phrase extraite du journal de bord de Che Guevara, quelques heures avant de se faire liquider par l'armée bolivienne. Et puisqu'il n'était que blessé, hein, il est exécuté. Et qui relate un peu un passage très important, ce qu'on a appelé la lutte de la tricontinentale, c'est-à-dire les mouvements de libération nationale en Afrique, en Asie et en Amérique latine, sous la forme de guérilleros qui vont s'engager dans la foulée. D'ailleurs, Michel Dragon a séjourné quelques mois à Cuba. Donc on est dans la période des années, début des années 60, où Cuba apparaît un peu comme un phare. Hein. Il y a toujours eu des phares. Hein. Après, ils sont plus ou moins éteints. Mais il y en a eu en Russie, il y en a eu en Espagne, il y en a eu à La Havane. Et donc, c'est un peu... Il relate. Et ce qui est important, je trouve, dans cet ouvrage, c'est un roman, quelques personnages, hein, qui se prénomme Carlos, c'est de resituer un peu les visages des figures montantes de ces peuples qui ont combattu les armes à la main, l'impérialisme capitaliste. Et aussi un retour sur leur destinée, qui souvent sera tragique. Hein, c'est-à-dire, après avoir combattu, certains ont fini plusieurs, même dans des bains d'acide. Voilà. Comme Patrice Lumumba ou d'autres. Et voilà, c'est à la fois un roman qui va intéresser des lecteurs, qui intéresse des lecteurs, comme les premiers échos qu'on a en témoignent, de Michel Dragon, mais aussi des gens qui s'intéressent aussi aux questions politiques et aux questions des luttes politiques d'émancipation à travers le siècle. Et là, il y a vraiment des, il y a même des formules qui sont très intéressantes. Ça fait comme un écho parfois à ce qui se dit aujourd'hui, où il parle de la domination blanche dans ces années-là. Bon, mais c'est aussi, c'est pas que les continents, c'est aussi une immersion dans le mouvement des Black Panthers. Hein, il va contacter le mouvement syndical, le personnage. C'est vraiment un voyage dans une période de l'histoire. Voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, sauf que, je rappelle, nous avons un colloque le 8 et 9 juin, on aura l'occasion d'en reparler, mais quand même, j'insiste, réservez vos dates, ne partez pas en vacances à ce moment-là. C'est le 8 et 9 juin à Paris, et il y a un certain nombre d'intervenants, hein, c'est à l'AGK, 177 rue de Charonne, ça dure 2 jours, avec à la fois des intervenants, certains sont universitaires, comme Sarah Agmatari, qu'on a déjà reçu ici, hein, à propos de l'exposition Dragon qui avait eu lieu au musée d'histoire sociale de Montreuil, qui fera une intervention sur Michel Dragon et le savoir. Il y aura Thierry Maricourt qui abordera Michel Dragon, libre et libertaire. Thierry Paco qui reviendra sur les villes et architecture émancipatrice chez Dragon. Il y a ce texte. Philippe Jeunesse, dont je parlais tout à l'heure, qui abordera Dragon et la littérature prolétarienne, parce que là aussi, il y a tous les débats, qu'est-ce que la littérature prolétarienne, qu'est-ce qu'elle n'est pas, je suis pour, je suis contre. Donc, voilà. J'aborderai, moi, Dragon et mai 68, et il y aura des films, hein, j'y reviendrai plus précisément. Le soir du 8, il y aura une intervention théâtrale de Abby Patrix, hein, à partir de textes de Michel Aragon. Il y a Michel, ici présente, qui nous parlera de l'historien de l'art, d'après son livre « Gustave Courbet, peintre de la liberté ». Harry Bellet qui parlera de l'art, pourquoi faire. Sylvain Boulouk, les correspondances de Ragon avec les anarchistes. Patrick Verdun, qui a fait un travail bibliographique extraordinaire. D'ailleurs, il nous a bien aidé pour notre livre qu'on vient de rééditer, mais qui parlera des réalités virtuelles, des rencontres amicales de Michel Ragon. Didier Denynx, qui abordera Michel Ragon et des chemins de travers de la littérature. André Dervin, qui publie une biographie. Et il y aura aussi, en permanence, des films qu'on pourra voir dans une salle en boucle, hein, deux films sur Ragon. Il y a d'autres initiatives qui ont lieu en Vendée. Il y a d'autres initiatives qui ont lieu en Vendée et dans d'autres régions, à Nantes, hein, on y reviendra tout au long. Il y en a le 16 février, je crois que c'est à La Roche-sur-Yon, ou à Fontaine-Comte, j'en reparlerai dans l'émission de février. Voilà, il y a plusieurs initiatives pour ce centenaire, c'est un moment de rencontre important. Voilà, et nous on sera peut-être associés à d'autres sur La Roche-sur-Yon en mai ou juin, avec des compagnons sur place qui nous ont contactés et avec qui on va essayer d'élargir encore ce travail de diffusion. Voilà, je crois que nous en avons terminé pour aujourd'hui avec cette émission de « Et pourtant, elle existe, cette littérature ». Et nous allons terminer en écoutant une nouvelle fois, parce que moi je l'aime bien, Neil Young, « Earth of God ». Voilà, au revoir et rendez-vous au mois de février.